Question d'Islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du dialogue interreligieux et tout particulièrement du dialogue islamo-chrétien sous la voûte commune de la laïcité et dans le cadre des institutions républicaines, des citoyens croyants des deux traditions religieuses, la tradition religieuse chrétienne au sens large avec toutes les confessions et islamique aussi avec ses confessions, se retrouvent, se rencontrent, dialoguent, parlent et expérimente, si je puis dire, la fraternité. Eh bien, pour en parler, j'ai plaisir à accueillir les deux présidents, une présidence duale, bicéphale, les deux coprésidents du GAIC, le GAIC étant le groupe d'amitié islamo-chrétienne. D'abord, Hélène Millier, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous faire l'amitié de venir. Merci.
Merci réciproquement d'avoir pensé à nous inviter.
Je vous en prie, vous êtes directeur, je ne féminise pas le titre, directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes historienne, historienne médiéviste, et à vos côtés, votre alter ego, Haydar Demiryolek, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Haydar Demiryolek. Merci aussi tout autant pour Hélène Millier de nous faire l'amitié de venir.
Merci de nous accueillir.
Et les auditeurs de France Culture vous en sauront gré à l'un et à l'autre de nous éclairer à propos de ce que vous faites au GAIC, au groupe d'amitié islamo-chrétienne. Vous êtes juriste et vous avez aussi obtenu un master en laïcité et droit des cultes. Ça me paraît être très intéressant. Et vous avez présidé longtemps le comité de coordination des musulmans turcs de France. Bienvenue encore à l'un et à l'autre. C'est vrai qu'il y a depuis quelque temps une nécessité impérieuse et un besoin vital de dialoguer, de se rencontrer, d'échanger. D'abord au sein de la famille abrahamique, la rencontre judéo-islamo-chrétienne. Au-delà, si on tient compte d'autres expériences religieuses et d'autres traditions. Alors, tout particulièrement aujourd'hui, nous parlons de ce dialogue bilatéral islamo-chrétien. Parlez-nous, s'il vous plaît, d'abord du GAIC. Comment est venue cette idée du groupe d'amitié islamo-chrétienne? Allez, Haydar Demiryolek.
Oui. Le GAIC est une association loi 1901 qui a été créée en 1993 par le père Michel Lelon et le professeur Mustapha Chérif. Nous allons fêter les 25 ans l'année prochaine. Et l'idée de cette association venait du fait que nous avions besoin et nous avons toujours besoin d'une meilleure connaissance des uns et des autres, des chrétiens et des musulmans, sur les valeurs éthiques et spirituelles qui sont communes à nos deux cultures, à nos deux religions, à nos deux civilisations. Et pour ce faire, il nous a semblé essentiel que ça ne se limite pas à des études ou à des tables rondes, mais que vraiment on fasse ensemble, on fasse des actions ensemble. C'est ce que nous avons fait durant la CERIC, et nous avons aussi d'autres activités que nous pourrons développer par la suite.
Alors je précise tout de suite, CERIC, pour nos amis auditeurs, ce sont au pluriel donc les CERIC, les semaines de rencontres islamo-chrétiennes. Depuis un certain nombre d'années, vous en organisez, là, juste à la reprise des vacances de la Toussaint, sur une quinzaine de jours, une dizaine de jours, un peu plus, des rencontres islamo-chrétiennes. Comment ça se passe, Hélène Millier, ces rencontres, et quel est leur impact, et comment sont-elles organisées?
Alors, elles sont organisées surtout localement par tous les acteurs locaux qui souhaitent avoir une rencontre, sous une forme ou sous une autre, à une même époque. Alors, pourquoi avoir choisi de faire une même époque? Eh bien, c'est pour se donner les chances qu'on en parle. Parce que l'amitié, ça ne fait pas de bruit. L'amitié, ça n'est pas quelque chose qui est un sujet journalistique ou médiatique. Et pour qu'on veuille bien parler de ce genre de d'événements, mieux vaut effectivement les regrouper pour qu'ils soient qu'ils aient plus d'impact dans l'opinion. Donc, le GAIC, en fait, se borne à avoir un rôle de fédération dans cette organisation et à susciter, aider, surtout matériellement, concrètement, les différents acteurs locaux. En France, il y a aussi quelques acteurs locaux en Belgique, en Angleterre, mais cela dépasse un peu nos forces d'organiser cela sur le plan européen, bien qu'on l'aurait souhaité à un moment de l'existence du GAIC. Donc nous tournons actuellement surtout dans l'espace de la France, et là, nous accueillons les projets qui nous sont proposés par des personnes que nous connaissons ou des personnes que nous apprenons à connaître et qui souhaitent se joindre à cette manifestation.
Haider Demir Yurek, comment se passent concrètement ces rencontres? J'ai cru comprendre que c'est dans l'espace métropolitain, hexagonal, ou est-ce que c'est aussi dans les départements et territoires d'outre-Méditerranée et notamment sur l'île de la Réunion avec l'évêque Mgr Aubry ou d'autres?
Oui, effectivement, la Réunion est très riche de ce dialogue fraternel. Vous avez cité l'évêque. Je peux citer aussi la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion avec son président, Monsieur Molan. On peut citer également Monsieur Hossein Hamod, qui est très actif également. Nous sommes en contact avec la Réunion. Ils ont des activités qui nous intéressent énormément. Nous avons près d'une centaine de rencontres qui se déroulent surtout en métropole, mais également aussi en Belgique. Cette centaine de rencontres est laissée totalement à l'initiative des acteurs locaux. Alors, ça peut être un colloque, une conférence, ça peut être des repas, ça peut être des rencontres sportives. C'est vraiment très large. Cette coordination que nous assumons, eh bien, nous permet de nous retrouver après en janvier pour faire le bilan, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et à chaque bilan que nous faisons en janvier, nous constatons que vraiment cette amitié, cette fraternité s'est installée et que les participants traduisent leur satisfaction vraiment d'avoir une meilleure connaissance de l'autre, chrétien ou musulman. Nous avons également des GAIICs qui sont créés et qui sont en association indépendante, mais qui se dénomment également GAIICs. C'est le cas notamment du GAIIC de Toulouse, du GAIIC Bordeaux, GAIIC à Châtelet-Malabry, à Mulhouse, à Strasbourg, à Montpellier. Voilà, je ne peux pas les citer tous, mais c'est une fédération qui tente à prendre de l'importance et nous en
réjouissons. Pardonnez ce terme un peu prosaïque. Vous avez soit des franchises, soit il y a une sorte de prolifération sous forme de filiales.
Ils sont totalement indépendants. Bon. Totalement indépendants. Nous coordonnons seulement.
Ces groupes locaux, qui sont importants, empruntent l'appellation groupe d'amitié islamo-chrétienne. C'est l'amitié qui est qualifiée ici, ce n'est pas le groupe.
Absolument, c'est tout à fait l'amitié. Et il y a aussi des groupes avec lesquels nous sommes en contact qui n'ont pas ce nom, qui ne reprennent pas ce nom et qui néanmoins revendiquent tout à fait la houlette de l'amitié pour leur rencontre. Donc là, c'est vraiment très libre et cela suit les histoires locales aussi. Parce qu'il y a un groupe local, je crois c'est celui de Bordeaux, qui est beaucoup plus ancien que le GAIIC, notre GAIIC généraliste. Donc, vous voyez, on ne va pas s'attribuer les plumes du paon.
Ça couvre toute une gamme de la vie de tous les jours, en réalité. Ça va depuis les manifestations sportives jusqu'aux colloques un peu plus savants. Sur ces deux semaines, il y a aussi ce qui relève de la vie ordinaire, quotidienne, les partages de mets succulents, le plus souvent des repas festifs. Mais il y a aussi ce qui se passe au sein des familles dont on dit que ce sont des mariages mixtes. les mariages sont souvent mixtes en dehors de ce qui a pu se passer après le mariage pour, avant ou après le mariage pour tous. C'est ainsi, c'est un moment fort de fraternité et d'amitié. On va venir tout à l'heure sur la notion du vivre ensemble. Mais vous le sentez comme ça?
Je dirais, vous avez évoqué un certain nombre de manifestations qui prennent place, qui se déroulent pendant la CERIC. Pour ma part, depuis que je m'intéresse de près à la CERIC, je suis frappée surtout par la variété qui ne cesse d'augmenter des idées pour faire se rencontrer les personnes. Il s'agit au départ de personnes qui vivent l'amitié entre elles et qui, à cette occasion de la CERIC, souhaitent faire partager cela à d'autres qui n'ont pas forcément cette chance de pouvoir partager l'amitié. Donc, on invite à venir à une manifestation. Alors, une manifestation qui peut être, je prends volontairement d'autres exemples de déroulement, une pièce de théâtre montée en commun par des jeunes qui sont chacun dans un mouvement musulman, un mouvement chrétien, et qui se retrouvent pour faire ensemble une pièce de théâtre, avec les parents, bien sûr, qui viennent les regarder. Et là, ça change tout, avec une participation, effectivement, festive autour de la dégustation de mets plus généralement musulmans, enfin musulmans. C'est idiot de dire musulman.
Préparé par des familles
mais de musulmanes. De traditions qui ne sont pas la cuisine française. Voilà. Bon, alors, voilà, vous avez ce genre de choses. Vous avez aussi des représentations théâtrales qui sont préparées par des troupes professionnelles, plus ou moins professionnelles, qui peuvent être présentées à cette occasion-là, suivies d'un débat. Ça peut être aussi une représentation cinématographique. Ça peut être des échanges de visites de lieux de culte réciproques. Ça peut être aussi, et cela c'est peut-être appelé à se développer un peu plus, des marches dans la ville, des marches communes dans la ville, sous l'égide de la municipalité, lorsqu'elle est partie prenante, et parfois il suffit de lui demander. Il suffit de penser à lui demander, à la municipalité en général, elle suit avec joie. Voilà.
Haïdal Demir Yulek, les élus locaux, le premier magistrat de telle ou telle ville, n'éprouve pas de réticence à vous aider à jouer un peu les catalyseurs?
Alors, les catalyseurs, non, mais en tout cas, lorsqu'ils sont invités, et nous demandons à nos acteurs locaux d'inviter les autorités officielles à participer, lorsqu'ils sont invités, ils y participent, ils interviennent même. Et à Châtenay-Malabry, le maire avait dit que ça faisait partie pleinement de la laïcité, que d'organiser, que de faire que des communautés se rencontrent et d'y participer, il était pleinement dans son rôle. Alors, bien entendu, les manifestations ne se font pas par rapport à la présence de monsieur le maire, mais nous souhaitons accueillir des élus dans nos manifestations, dans ces conférences.
Alors, ces rencontres sont islamo-chrétiennes, mais elles restent ouvertes aux personnes agnostiques, à ceux qui ne professent pas une foi en un Dieu personnel. Elle reste bien entendu ouverte à nos compatriotes juifs et d'autres traditions religieuses.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus dissoudre le dialogue islamo-chrétien dans tout le reste. C'est notre particularité.
Il y a une spécificité propre.
Voilà. Et des extensions d'une manière ou d'une autre, ici ou là, qui se font, je dirais, assez naturellement. Enfin, c'est parfois un sujet nécessite aussi la façon, parce que les groupes locaux s'organisent autour d'un thème, hein, généralement. Donc un sujet peut nécessiter la participation, en particulier, de nos compatriotes juifs. Voilà, ça, ça arrive encore assez fréquemment. Mais,
oui.
Encore une fois, donc, nous développons d'abord et en premier lieu l'islamo-chrétien.
Oui, parce qu'il y a aussi une autre association un peu homologue qui est la JMF, qui est l'Amitié judéo-musulmane de France. Nous verrons aussi dans quel contexte on pourra parler de leurs propres manifestations, etc. Hélène Millet, ce dialogue interreligieux et tout particulièrement islamo-chrétien, n'a pas été instituée, n'a pas commencé depuis bientôt un quart de siècle dans notre pays. Il a bien commencé, peut-être d'une manière un peu informelle. Est-ce que vous pouvez nous dire, je m'adresse à l'historienne que vous êtes, quelles sont un peu ces bribes et comment ça a commencé? Quels sont ces prolégomènes?
Vous dites que ça n'a pas commencé il y a 25 ans, mais les racines sont tout de même assez difficiles à les trouver au-delà du Concile Vatican II. Il faut bien reconnaître que, en catholicisme, ce Concile Vatican II a joué un rôle fondateur. Et en reconnaissant, tout simplement en parlant déjà simplement des religions monothéistes, en reconnaissant leurs valeurs et en incitant les chrétiens à ne pas rester entre eux, mais donc à vivre en croyant, ce mot de fidèle croyant qui nous unit, donc à vivre ensemble cette croyance dans la mesure où nous pouvons la partager. Bien sûr, ça n'est pas tout d'un coup, nous sommes tous unis et identiques, absolument pas. Il s'agit aussi de bien connaître les différences, de bien les accepter, de bien les respecter. Et ce point de départ du Concile a, je crois, débridé la chose, a permis justement des initiatives ici ou là, a surtout décoincé libéré des rapports qui pouvaient se vivre naturellement et qui, petit à petit, ont éprouvé le besoin de s'assurer une permanence, une armature plus ferme pour tenir dans la durée celle d'association. Hein? Voilà. Et alors, il y a eu la création par l'Épiscopat de France d'un service pour les relations avec l'islam qui est devenu d'un service de relations avec les musulmans et donc qui a organisé les choses petit à petit. Il y a eu le souci de faire en sorte que ce mouvement ne soit pas en interne dans le monde catholique, mais qu'il s'ouvre aussi à tout ce qui, en France, pouvait prendre la dénomination chrétienne. Et là, je dirais que c'est quelque chose de très important au Gaïque, précisément, que d'être chrétien, de ne dépendre d'aucune hiérarchie, d'aucune des différentes confessions chrétiennes, et de manifester aussi, dans ce travail interreligieux, que nous avons des liens œcuméniques forts.
Et malheureusement, nous, pour ce qui concerne les musulmans, nous n'avons pas d'autorité
centrale
et voilà, telle que nos amis chrétiens peuvent l'avoir, en tout cas catholiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons de temps en temps des difficultés à exprimer aux musulmans cette nécessité vraiment de s'entreconnaître, de ne pas rester recroquevillé sur des certitudes. Et je pense que au Gaïque, un des rôles est de casser ces préjugés et de faire que, je parle pour les musulmans, de faire connaître la sensibilité, la mobilisation sur laquelle nous pouvons témoigner de nos amis chrétiens sur des sujets qui concernent directement les musulmans. Que ce soit sur des sujets internationaux, que ce soit sur les discriminations dont peuvent être victimes les musulmans, je peux témoigner que ce sont nos amis chrétiens qui les premiers montrent au créneau. Et là, c'est important. C'est important pour ne pas envoyer l'image d'une société ou d'une communauté communautariste qui serait intéressée que par ses intérêts propres.
Alors, seules les certitudes rendent fou, et donc vous dites si bien que ça aide notamment la partie islamique du groupe d'amitié islamo-chrétienne de sortir de ces certitudes. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui du GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétienne, avec ses deux coprésidents, Hélène Millet, le directeur de recherche émérite au CNRS, historienne médiéviste, et l'autre coprésident, Haïdar Demir Yurek, le juriste, et qui est un fin connaisseur de la laïcité et du droit des cultes, président honoraire du comité de coordination des musulmans turcs de France. Vous avez dit juste avant cette pause que Vatican II a libéré, je m'adresse à vous Hélène Millet, en quelque sorte a assis d'une manière institutionnelle, officielle, cette ouverture, et notamment avec l'encyclique Nostra Aetate, l'ouverture aux autres traditions religieuses. Mais ne peut-on, le mais n'est pas une restriction, voir dans la proto-histoire de ce dialogue islamo-chrétien les jalons de certains islamologues, d'orientalistes, de savants, le mot orientaliste est à revoir peut-être, et je songe par exemple à Louis Massignon avec son pèlerinage des sept dormants d'Éphèse à Vieux Marché, peut-être à d'autres, je ne parle même pas de la préhistoire qui remonte à Adam Yet et la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan Malik al-Kamil en 1219. Vous pensez que petit à petit, ça y a une maturation et on est revenu à Vatican II? Ou pas? Ou est-ce que c'est un raccourci que je fais?
Alors, honnêtement, donc vous l'avez dit, je suis médiéviste et non pas contemporanéiste, donc je ne m'aventurerai pas à donner un jugement sur les filiations qu'il peut y avoir entre une rencontre de saint François avec le sultan en 1219 et le Concile Vatican II et ce qui se passe maintenant. Ça me paraît un peu hasardeux. Néanmoins, je dirais que, oui, vous avez cité Louis Massignon aussi. Moi, je voudrais citer ce qui se passe avec les ordres religieux qui se sont implantés à la faveur, je n'ai pas peur du mot, à la faveur de la colonisation. Ils ont fait des choses, ils ont fait beaucoup de choses. Certaines leur sont reprochées maintenant, d'autres demeurent encore comme des jalons précieux de développement du pays ou de rencontres culturelles entre les pays. En tout cas, du point de vue religieux, je crois que on peut citer l'ordre dominicain avec son centre du Caire. On peut citer le Liban avec, pas simplement d'un point de vue religieux, avec les ordres religieux, mais je pense à la faculté jésuite Saint-Joseph de Beyrouth. Il y a, bien sûr, les ordres qui étaient plus spécifiquement missionnaires créés dans ce but. Je pense au Père Blanc et il se trouve que précisément le Père Michel Lelon, fondateur du GAIC, est Père Blanc. C'est dans la lignée de ces installations missionnaires que des rapprochements se sont faits naturellement, des rapprochements qui se sont faits à ces époques sur place dans les pays musulmans, alors que maintenant nous vivons une réalité complètement différente qui est que ce sont les musulmans qui sont venus s'installer en France. Et là, la rencontre ne se passe plus de la même façon. Il faut l'inventer. Il a fallu l'inventer. Et ce sont les créations de ces groupes dans la foulée du Concile Vatican II. Mais vous voyez bien qu'entre ce qui se passe en France et ce qui se passe au niveau du Concile, qui est international par essence, il y a aussi un pas à franchir. Et avec, en France, évidemment, un événement qu'on ne saurait occulter, qui sont les guerres d'indépendance, et en particulier la guerre d'Algérie, qui a créé un contexte qu'il a fallu dépasser, et ce n'est pas terminé.
Hélène Millet, vous avez parlé, effectivement, le Concile a une vocation internationale, et ça concerne l'Église catholique au sens large, et ce n'est pas restreint à la France, bien qu'elle soit fille et aînée de l'Église. Il y a eu aussi des institutions, le PISAI, qui est l'Institut Pontifical des Études Arabes et Islamiques. Vous avez à juste raison évoqué l'IDEO, de mémoire, c'est l'Institut Dominicain d'Études sur l'Orient.
je crois que c'est exact.
L'IBLA, qui est l'Institut des Belles Lettres Arabes, et sont rattachés effectivement d'une manière institutionnelle, mais là, ce que vous faites au sein du GAIC, c'est aussi une rencontre, ce n'est pas dépréciatif dans ma bouche, au quotidien entre citoyens ou concitoyens qui se trouvent appartenir à deux traditions religieuses différentes.
Absolument. Vous avez parfaitement raison de souligner cette différence avec les grands instituts que vous avez cités qui, eux, avaient une vocation, je dirais même scientifique, d'approche des cultures de façon scientifique. Pour nous, au GAIC, non. C'est effectivement le quotidien, le journalier, le voisin, très important, le voisin, qui est notre raison d'être. Et ce sont ces contacts qui forme la trame de l'amitié et que nous efforçons avec nos forces très limitées de développer en suscitant des rencontres par tous les moyens. Voilà.
Haïda Demir Yulek, la composante islamique de la nation et tout particulièrement au sein du GAIC, je parle d'une manière générale d'abord au sein de la nation et après, n'est pas perçu systématiquement ou toujours comme un élément allogène à la nation. C'est un élément plutôt intrinsèque. Et c'est de ce point de vue-là que la rencontre islamo-chrétienne se veut comme une contribution à asseoir les fondations d'une nation solidaire et fraternelle.
Oui, effectivement. Avec cette particularité pour la composante musulmane de la nation en France, c'est qu'elle est très diverse. Et les musulmans viennent d'horizons différents, de pays différents. C'est la raison pour laquelle cette nécessaire communion dans la nation est rendue un peu plus difficile. Mais nous avons aussi dans nos textes cette orientation vers l'autre, vers le voisin, comme vient de le rappeler Hélène, c'est que le voisin pour notre culture musulmane est si importante que je me permettrai de rappeler un hadith qui dit que une parole rapportée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que notre prophète a tellement parlé d'une manière élogieuse du voisin que un de ses auditeurs s'est posé la question de savoir si il allait en faire un des héritiers du musulman. Alors cette approche que nous devons, cette approche bienveillante que nous devons avoir de l'autre est inscrite et c'est la base de notre culture qui ferait que nous devons nous intégrer dans cette nation puisque nous sommes voisins, nous sommes amis, nous sommes frères, nous avons une communauté de destin avec cette nation, malgré les difficultés, malgré les messages qui peuvent parvenir de certains groupuscules, eh bien nous devons faire face. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir la confiance et le soutien de nos amis chrétiens et d'une manière générale de la nation tout entière.
Alors, dans le souci scrupuleux de ne pas vous interrompre quand vous avez évoqué cet aphorisme, ce hadith du prophète, cette parole, et en parlant du prophète, vous avez ajouté en langue arabe une phrase dont je me fais le traducteur auprès des auditeurs et qu'on appelle en termes techniques une eulogie, une bonne parole. Et en l'espèce, vous avez dit que Dieu l'agrée ou que Dieu le bénisse ou l'accueille. Et c'est ce qu'on dit quand on cite le prophète ou les prophètes de Dieu. Et c'est ce que vous avez fait en croyant musulman. Et vous avez parlé aussi de difficultés qui peuvent venir de certains groupuscules. Je pense que le GAIC a connu des épreuves au moment, peut-être 3 ans plus après sa fondation, avec l'assassinat des moines en Algérie. Comment, chère Hélène Millet, vous avez au sein du GAIC et même ailleurs pu surmonter cette terrible épreuve et comment était-elle perçue, je ne dirais pas comme salvifique, mais elle a rapproché davantage et consolidé les liens d'amitié et de fraternité au sein du groupe? Qu'il y en a des épreuves, il y en a encore d'autres, mais je commence par celle-là.
À cette époque, je ne faisais pas partie du GAIC, donc je ne peux pas vous parler de l'intérieur du GAIC. Mais je peux vous parler de ce dont a témoigné le frère de Christian de Cherger, Hubert de Cherger, qui est membre du GAIC et à qui nous devons énormément pour la façon dont il partage cette expérience familiale, d'abord familiale, où dans cette famille de grande tradition catholique, une famille donc avec de nombreux enfants, au lendemain de l'assassinat, autour des parents, il y a eu un rassemblement dans la prière et dans la recherche du pardon. C'est vraiment ce message que Hubert de Cherger ne cesse de nous transmettre, de nous faire partager. Et ce qui était au lendemain même donc des événements, c'est creusé, c'est approfondi dans le cœur même d'Hubert, en ce sens qu'il s'est senti investi de la mission de continuer en tant que laïc, là où il était, à Versailles, en France, de continuer la mission de son frère. Voilà, donc il est devenu un membre extrêmement influent du GAIC. À ce titre, donc, l'esprit de Tibirine, je l'espère, je n'ose pas le dire, ce serait peut-être présomptueux, mais continue à vivre aussi chez nous.
Vous voulez peut-être réagir aussi sur ce point.
Oui, sur ce point, bien entendu, moi je salue également l'activisme de Hubert sur le dialogue islamo-chrétien. Et puis je voudrais rappeler quelque chose que nous avons vécu aussi l'année dernière et que vous vouliez peut-être aussi rappeler.
Vous l'avez anticipé, mais il y a encore l'épreuve de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'assassinat du père Jacques Hamel.
Exactement. Et où les musulmans ont été consternés de cet assassinat atroce. Et bien paradoxalement, après les communiqués et les réunions que nous avons fait, où nous avons constaté que les liens se raffermissaient également, et que paradoxalement, c'est ce genre d'épreuve, au lieu de diviser comme le recherchent les auteurs, bien au contraire, elle raffermit les liens, et c'est là que le témoignage de solidarité de la part des musulmans et de la part des chrétiens envers les musulmans fait que ces événements nous unissent encore davantage.
Vous pensez, Haïdal Demir Yurek, quand l'espèce est au détour, dans le sillage de cet événement dramatique, c'est un assassinat odieux et c'est un acte terroriste abject, que lors de la messe, un peu partout, de par l'Hexagone, je crois même au-delà, sur le territoire républicain, il y avait la présence de musulmans, parfois de jeunes musulmans, était aussi un élément important dans les églises.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et les musulmans ont éprouvé le besoin de venir témoigner de leur condamnation et de dire qu'ils ne se sentaient pas proches de ces auteurs et qu'ils les condamnaient. Et cet accueil aussi qu'ils ont eu de la part de chrétiens, là, c'était très fort. C'est que nos amis chrétiens ne faisaient pas l'amalgame avec cet acte terrible.
J'ai pris connaissance à titre personnel, j'ose le dire ici alors que je suis simplement le médiateur, que des jeunes gens musulmans disent « Ah, c'est la première fois que je rentre dans une église ». Et j'ai été interrogé, comment se fait-il qu'il faut qu'il y ait un acte aussi barbare pour qu'il puisse entrer pour la première fois dans une église ? Donc ma question, est-ce qu'au sein du GAIC, ce n'est peut-être pas le propre du groupe, c'est pas propre comme mission du groupe d'amitié islamo-chrétienne, d'enseigner l'altérité confessionnelle, j'allais dire de part et d'autre. Mais est-ce que vous le faites ? au sein des familles, au sein des rencontres, quand par exemple lors des CERIC, ces semaines de rencontres islamo-chrétiennes, est-ce que par exemple au sein des familles, les mamans disent à leurs enfants, tiens, c'est pas par pure curiosité, il y a un lieu dédié au culte de Dieu, est-ce que vous allez le visiter ou y entrer ou pas?
Ce sont des choses qui se font, qui peuvent se vivre et qui sont de plus en plus organisées, disons, favorisées par les autorités. Et ça, je crois qu'il faut saluer, justement, après les attentats, non pas simplement contre le Père Hamel, mais ceux qui avaient eu lieu avant et qui avaient touché la nation de façon beaucoup plus collective. Donc, il y a eu cette réaction d'ouverture des mosquées qui a touché très vivement les chrétiens, parce que il faut bien le dire que vous avez dit en expérience personnelle que des jeunes disaient c'est la première fois que je rentre dans une église, mais de la même façon pour des chrétiens, la première fois qu'ils rentrent dans une mosquée en France et non pas en touriste pour visiter un lieu de culture
et de culte.
Voilà. Donc la première fois qu'ils rentrent dans une mosquée à ce titre, c'est aussi un événement. Ça ne se passe pas si facilement et si naturellement que cela. Donc il y a de part et d'autre, il y a effectivement une barrière qu'il faut encore travailler à abaisser. Je ne dirais pas complètement aplanir, parce que on est chacun chez soi aussi, d'une certaine manière, mais à montrer qu'elle est franchissable dans certains cas et de façon bénéfique.
Et Haïdar Demir Yolek, vous pensez que cette opération Journée Portes Ouvertes sur les mosquées et dans les mosquées, et surtout l'opération dite T de la fraternité, a participé ont participé avec les Journées Portes Ouvertes à aplanir ces difficultés et à apprivoiser un peu les réticences, les peurs qu'ont l'ensemble des concitoyens à aller dans des mosquées?
Oui, je le pense, mais malheureusement, je pense que c'est encore très limité en termes de nombre. Et là, il me vient à l'esprit un reportage qui a été diffusé au mois de septembre, où des jeunes, lors d'une visite scolaire, ne souhaitaient pas s'approcher d'une croix qui était posée dans un champ de bataille pour honorer les morts de la Première Guerre mondiale. Et après, le professeur en discute avec le parent et le parent dit à son enfant « Non, tu peux t'approcher de la croix, tu peux aller dans l'église. » Eh bien, c'est aux familles, parce que les familles savent que ce n'est pas interdit par notre religion. Encore au mois de septembre également, une église à Paris a ouvert ses portes aux musulmans pour qu'ils y fassent la prière. Je ne peux m'empêcher de penser à l'ouverture qu'a fait notre prophète pour accueillir les chrétiens et leur demander et les autoriser à faire la prière dans la mosquée. Les fondements religieux ne nous interdisent pas de visiter, de prier, même dans des églises. Mais la croyance populaire, eh bien, elle fait que on a parlé de préjugés tout à l'heure, eh bien, voilà un des préjugés qui nous revient de briser.
Vous avez évoqué cette rencontre des chrétiens de la ville de Najran, qui est la ville septentrionale du Yémen, qui sont venus en délégation voir le prophète de l'islam. Et au moment de célébrer l'Eucharistie, il leur a demandé de le faire plutôt dans sa modeste mosquée, ou la toute première mosquée de l'islam.
I know.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du dialogue islamo-chrétien et tout particulièrement dans ce qui se passe au GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétienne, avec ses deux coprésidents. D'abord, Hélène Billet, directeur de recherche au CNRS, historienne médiéviste, et le pendant, l'alter ego, l'autre coprésident, Haïdar Demir Yolek, juriste, un homme de droit et un fin connaisseur, encore une fois, de la laïcité et du droit des cultes. Vous avez, Haïdar Demir Yolek, présidé longtemps le comité de coordination des musulmans turcs de France. Dans cette dernière partie, si vous voulez bien, Hélène Millet, je vous poserai peut-être une question, je ne dirais pas d'ordre théologique, mais un peu plus intellectuel ou académique. Y a-t-il des débats, des rencontres, puisqu'on dit souvent que le dialogue interreligieux est stratifié, il y a la strate des rencontres quotidiennes, il y a aussi ce qui relève d'une morale commune, celle qui s'enracine dans le monothéisme abrahamique, et avec les valeurs de ce monothéisme-là. Mais aussi, il y a des niveaux de rencontres de type théologique et académique. Il y a des colloques, des débats, des séminaires là-dessus.
Oui, et il y en a. Je voudrais, là, en réponse à votre question, vous présenter un atelier du GAIC que j'ai contribué à créer il y a maintenant près de 15 ans. Avec une amie musulmane, Rabia El Adab, que nous avons intitulé, que elle surtout a pensé à intituler Vivre les textes. Dans cet atelier Vivre les textes, il s'agit pour des chrétiens et des musulmans d'échanger autour de leur lecture des textes sacrés de chaque tradition. Donc, les chrétiens viennent avec principalement le Nouveau Testament et les musulmans viennent avec le Coran. On se tient à l'essentiel de nos traditions. Et là, dans un échange, nous nous retrouvons une fois par mois à peu près, pendant 2 heures et demie, autour d'un texte que nous avons choisi la fois précédente sur un thème. Alors, nous avons commencé par étudier les personnages qui nous sont communs, Marie, Joseph, Abraham, et puis...
Joseph, le prophète.
Voilà, le fils de Jacob. Et nous avons aussi... je suis en train de me tromper d'ailleurs, mais enfin...
Non, mais je vous en prie, je voulais pas vous interrompre.
Donc, nous avons aussi pris des thèmes tels que la résurrection, la vie de l'au-delà, l'esprit. Donc voilà, et à partir de ces thèmes, à partir de ces personnages, donc une fois nous portons nos regards sur un texte de la Bible, du Nouveau Testament surtout, et l'autre fois donc sur un texte du Coran qui fait écho. C'est cela notre façon de dire, c'est que il y a des échos d'un texte à l'autre. Ils ne sont pas semblables du tout. Ce sont au point de vue littéraire, des monuments complètement différents. Donc, il ne s'agit pas de les comparer, mais de se dire comment nous les comprenons et comment nous, chacun dans nos traditions, nous en vivons. Et cela, donc, nous permet de lire les textes de l'autre tradition, guidés par quelqu'un pour qui c'est important pour lui et pour qui il en vit. Et là, les choses changent complètement. Donc, vous voyez, c'est à la fois, oui, non, ça n'a rien de scientifique, mais malgré tout, chacun d'entre nous a à cœur d'approfondir la lecture du texte de sa propre tradition. Mais c'est surtout donc sur la façon dont ces textes éclairent nos vies que nous avons ces échanges. Et là, cela fait naître évidemment un climat de confiance, de respect, d'admiration mutuelle même, et que nous cherchons à partager bien naturellement. Au point que, il y a maintenant 2 ans, nous avons choisi un thème pas facile, qui était celui de la violence dans nos textes. Et cela a été possible parce que les chrétiens ont aussi accepté de chercher ce qui était violent dans leurs textes et de découvrir que justement leur Nouveau Testament n'était pas un texte de guimauve se bornait à prôner l'amitié universelle sans faire attention à ce qui pouvait déraper et être rugueux dans la vie. Donc, voilà, c'était des expériences qui sont à vivre, là encore, et qui ne sont pas des exercices de vie intellectuelle, même si ça ne dispense pas, encore une fois, de réfléchir et de travailler sur ces textes à partir de ce que les savants peuvent en faire.
Bien. Chère Hélène Millet, vous avez dit que c'est un atelier intitulé, si j'ai bien noté, « Vivre nos textes » ou « Vivre avec les textes » ou « Les textes ». Et vous avez dit que depuis 2 ans, vous vous appesantissez sur la violence dans les écritures, dans les références scripturaires. Haydar Demir Yürek, je ne m'adresse pas à vous comme coprésident nécessairement musulman, mais comme d'abord l'homme de foi, a supposé par extraordinaire que l'approche comptable soit pertinente, ce dont on n'est pas sûr. Il se trouve que les versets dits belligènes ou violents ou de facture martiale sont beaucoup plus nombreux dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Mais n'y aurait-il eu qu'un seul verset, elle aurait posé problème théologiquement. Comment, dans ces ateliers du discernement, du témoignage, ceci est-il perçu et comment les croyants musulmans de l'atelier le vivent-ils, le perçoivent-ils, je ne dirais pas le justifient-ils, la question n'est pas là.
Alors, je ne participe malheureusement pas à ces ateliers. Il aurait fallu poser la question à notre ami Nasser, qui lui anime l'atelier avec. Il l'a longtemps animé avec Hélène.
Alors, nous l'inviterons peut-être avec vous, chère Hélène. Bien.
Avec plaisir.
Alors, moi, ce que je peux dire à titre personnel, c'est que effectivement, des versets violents, il y en a. Tout cela ne doivent pas faire oublier que le message principal du Coran reste l'appel à la paix, à la sérénité, à ce que le musulman donne confiance, fasse que les personnes lui font confiance, que le voisin a confiance en lui.
Bien. Oui, un mot de conclusion, Hélène Millet, puisque nous approchons du terme de notre émission, mais je vous écoute.
Non, ce que je voudrais préciser, c'est que dans l'atelier, ce travail donc sur la violence nous a amené à préciser notre vision de ce que sont nos textes. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc c'est là où c'est vraiment très important. Il y a la situation de Mohamed qui, lui, avait un rôle politique à jouer, un rôle de leader parmi ses frères à jouer, de rassembleur que on ne retrouve absolument pas évidemment dans la vie de Jésus prophète qui n'avait pas de responsabilité politique, je dirais au sens large.
Oui, alors vous abordez une question cruciale à la fin de l'émission, peut-être que si vous souhaitez revenir, nous en reparlerons. effectivement sur les conditions, les circonstances des deux périodes. Et j'ai cru comprendre que ce qui est central pour la foi chrétienne, c'est la figure même de Jésus, sa passion et sa résurrection. Ce qui est central, je le dis sous votre contrôle, Haïdar Demir Yolek, pour les musulmans, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait livre cette fois-ci. Merci à vous deux, merci Hélène Millet, merci Haïdar. Oui, je vous en prie.
Deux petites précisions.
Je vous en prie.
Nous avons aussi l'atelier Israël-Palestine qui, lui, concrètement, se concentre sur ce qui se vit en Israël-Palestine. Et puis, je voudrais aussi rappeler, puisqu'on a parlé des églises, que nous avons également, au mois de mai, une marche vers Chartres, où une soirée centaines de personnes, chrétiens et musulmans, à parité, vont visiter la cathédrale et ils font des rencontres islamo-chrétiennes.
Les deux ateliers, le premier c'est pour parler de la responsabilité des croyants dans la recherche d'une paix juste et durable dans cette région du monde qui est aussi le berceau de la foi monothéiste, abrahamique. Et le second atelier, c'est celui autour de la figure mariale et un pèlerinage qui se fait à la cathédrale de Chartres. Merci encore une fois, merci d'être venu nous parler du groupe d'amitié islamo-chrétienne. C'était Question d'Islam sur France Culture. Et vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manuel Couturier. La réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.